J'y vais alors. Oui, en termes d'histoire industrielle, c'est intéressant. Il y a de très jolis coteaux autour de la vallée du Gier aussi. Voilà, donc pour dire deux mots du collège, il accueille 700 élèves, dont deux quartiers en politique de la ville et puis des villages environnants, on parlait des coteaux, où le public est plus choisi, entre guillemets, donc une population assez mixte, 52 enseignants. Auparavant, j'étais professeure de sciences économiques et sociales et j'ai pris mes fonctions de principale dans ce collège, pas cette rentrée, mais la rentrée d'avant. Voilà. On m'a demandé d'intervenir sur accompagner la mise en place de projets en collège. On en a parlé hier. J'ai construit mon intervention en essayant aussi d'apporter des réponses aux questions que j'ai pu entendre. J'ai volontairement parlé de Jean-Luc Cournac, qui est l'IA IPR référent du collège, avec qui j'ai écrit un article qui est paru dans le cahier pédagogique numéro 528. Et intellectuellement, c'était quand même lui rendre hommage, parce que j'ai pas écrit l'article toute seule et que je me base en partie, pas tout, mais sur ce qu'on a écrit ensemble. Voilà, et puis je reparlerai du pilotage partagé. Pour placer notre réflexion, je suis partie d'une intervention qui a eu lieu l'année dernière en assemblée plénière. Vous savez, en collège et en lycée, on fait toujours ça en fin d'année. On se regroupe avant le pot de l'amicale. Et on échange et j'ai dit aux enseignants... Voilà, j'ai demandé aux enseignants, à la fin, s'ils avaient des choses à dire sur l'année. Et une enseignante a pris la parole pour dire « moi, j'ai l'impression que je ne sers plus à rien en conseil de classe ». Et ses collègues ont dit « nous, c'est pareil ». Et je leur ai dit « moi, c'est pareil ». Donc, vous voyez, et on s'est dit qu'il allait falloir qu'on trouve une solution et qu'on change un peu la façon de faire nos conseils de classe. Et je leur ai dit, je vous comprends, l'orientation est terminée au troisième trimestre. Et puis, comme on a fait tous les entretiens d'orientation concertés en troisième, comme les vœux Affelnet sont partis, vous servez à rien là-dessus. C'est vrai que... Qu'est-ce que je leur ai dit ? Attendez, faut que je... Oui, on est tous fatigués, et puis que les appréciations, on arrive, tout le monde les a faites, et on se demande simplement si tout le monde est d'accord, et en général, tout le monde est assez d'accord, et on se limite à discuter sur les bavardages, et est-ce qu'on met un avertissement ou pas ? L'avertissement, ce qui est le degré zéro de la pédagogie pour moi, mais bon... Donc ces conseils de classe, ça va pas. Alors on s'est dit, comment on peut faire ? En fait, c'est le format qui va pas. Alors on va faire un pré-conseil, comme ça au moins dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux élèves les plus en difficulté. Alors on s'est dit, mais alors les bons élèves, comment on fait ? Et puis, finalement, on s'est dit que c'était un faux problème, le format du conseil de classe. C'est pas ça qui est important, mais c'est plutôt le fond. Qu'est-ce qu'on veut comme apport au sein du conseil de classe ? Est-ce qu'on veut se limiter à un constat ? Cet élève, il est bavard, il travaille pas, ça on le sait déjà. Ou est-ce que on veut apporter une remédiation individualisée, en ciblant les compétences, en expliquant un peu ce qu'on va faire avec cet élève ? Pour problématiser mon propos, qui va être un peu le fil conducteur de mon intervention, revient à dire comment évaluer le niveau de maîtrise par l'élève de mon apport pédagogique et en rendre compte en m'intégrant dans le collectif des apports de mes collègues. Parce que je me suis dit, en tant que chef d'établissement, finalement, eux, qu'est-ce qu'ils questionnent ? Ils questionnent le rôle du collectif, qu'est-ce que le collectif apporte à l'élève, et moi, quelle est ma place au sein de ce collectif ? Comment est-ce que je me positionne ? Alors, se pose la question du coup du travail en interdisciplinarité et venait dans la plénière ensuite, j'avais prévu de présenter le diaporama de la DGESCO, si vous êtes en collège, vous l'avez peut-être eu, j'ai beaucoup de collègues qui l'ont présenté aussi, de la réforme du collège, à savoir que j'ai des collègues qui ne l'ont pas présenté volontairement parce qu'ils avaient peur des réactions des enseignants en phase 2 et je me suis dit, ce sera peut-être une réponse. Cette réforme au travail sur l'interdisciplinarité. Alors, très rapidement, il y avait les EPI. Ça, on en a parlé. Pas besoin d'en reparler. Il y a l'évaluation qui est socle. Et ça vient tout en même temps. Il y a déjà rien que pour accompagner en termes de projet, des équipes, toute une stratégie de projet à mettre en place, rien que là-dessus. L'accompagnement personnalisé qui permet la remédiation individualisée et d'apporter des solutions. Hein, et là, on fait de la pédagogie. Et la valorisation du conseil pédagogique où j'ai dit aux enseignants, là, c'est le moment d'y aller. Le P de pédagogique prend tout son sens. Emparez-vous de ce conseil, donnez vos envies, venez, dites-moi ce dont vous avez besoin. Et là, on pourra analyser nos pratiques et réfléchir à sur ce qu'on va pouvoir faire en termes de pays, d'AP, à partir de la rentrée. Donc, on s'est quitté là-dessus au mois de juillet et on est passé au barbecue. Voilà. J'ai vu dans les retours de questionnaires, puisque Monsieur Chaban avait envoyé des questionnaires aux participants, des interrogations qui m'ont interpellée et qui questionnaient directement mon intervention. Comment faire de l'interdisciplinarité quand on n'est pas spécialiste des autres disciplines? Quels moyens mobiliser pour favoriser la mise en place d'une réelle interdisciplinarité? Notamment en termes de concertation, de co-intervention, de temps de retour réflexif sur les projets en cours ou achevés. C'est pour ça que je vous posais aussi la question de vos concertations. Et ce qui a été révélateur dans votre réponse, ça a été tout de suite de me dire est-ce que c'était payé en HSE ou pas. Donc voilà, la question n'était pas là, mais en tout cas c'est révélateur du statut de l'enseignant et de la difficulté et de ce qu'a pointé la réforme finalement sur le statut de l'enseignant et qui a mis mal à l'aise autant de monde. C'est que, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que je ne fais pas mon travail, je me limite à mes 18 heures, j'ai besoin d'être payé pour tout ce que je fais. Enfin, et dans le quintet de formation, je regarde Anne Testey, ça a été des choses qui nous ont été renvoyées. Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez, qu'on travaille pas déjà ensemble, etc. Donc voilà, je comprends ce questionnement et je l'ai eu à la rentrée aussi dans le conseil pédagogique. Et ça, c'est une difficulté quand on est chef d'établissement d'instaurer un climat de confiance avec les enseignants en leur disant « mais non, mais on sait que vous travaillez beaucoup ». Et c'est pas là la question. C'est comment on va s'organiser. Comment faire travailler les enseignants en co-enseignement autour d'une même thématique pour que le projet soit au service des apprentissages et non pas une vitrine. Pour répondre à la première question, quand on n'est pas spécialiste d'autres disciplines, on arrive bien à travailler ensemble. Vous nous l'avez montré, EPS et lettres. Vous n'êtes ni l'une ni l'autre, je pense, spécialiste de vos deux disciplines. Donc voilà, il faut se faire confiance. Donc pour commencer, d'une réflexion consensuelle, on était tous d'accord quand on était autour du barbecue et quand on a terminé à la plénière. Mais c'est la mise en œuvre qui doit rester consensuelle et qui n'est pas toujours. Hein, c'est un travail quotidien. Je parlais du pilotage partagé. C'est, à mon avis, la première chose à faire quand on est chef d'établissement. Ne pas oublier qu'on a le corps d'inspection avec nous, comme vous, enseignants. Vous avez le corps d'inspection. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, accueillir l'IA IPR référent. Je discutais avec des enseignants hier. Tous les enseignants ne savent pas qu'on a un référent par établissement. Cette IA IPR, il faut travailler avec lui dans un climat de confiance, commencer à faire un bilan de lui, ce qu'il ressent quand il arrive au collège, comment il voit les professeurs, le climat, celle des professeurs, équipe de direction, ça c'est important. Si on veut travailler en confiance avec les enseignants, il donne son point de vue, c'est un regard extérieur sur lequel on peut s'appuyer. Ensuite, on regarde l'analyse des pratiques professionnelles. Ils en sont où, nos enseignants? Moi, je me rends compte, quand je lis les rapports des IAIPR, c'est que souvent, ils parlent du sens. La leçon était intéressante, construite, enfin voilà, tout ça. Et ils disent, mais quel sens? Pourquoi avoir fait ça? Et là, pour le coup, il me semble que les EPI sont là pour donner du sens, hein, aussi. Et puis, on s'appuie aussi, bien sûr, sur le contrat d'objectif. On fait une photographie où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. À savoir qu'un chef d'établissement a une lettre de mission, je ne sais pas si vous, oui, vous le savez, et qu'on a des objectifs aussi qui nous sont donnés par l'institution. Donc un pilotage partagé pour une faisabilité de l'interdisciplinarité. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai défini un calendrier de conseils pédagogiques que je vais vous donner, qui a été ponctué par les phases de formation institutionnelle. Alors, qui était propre à l'Académie de Lyon. Je sais que vous venez de différentes académies, donc je vais partir sur Lyon, hein, qui s'est fait en trois phases que je vous présenterai. Voilà, les phases. Excusez-moi. Donc, pour la faisabilité, j'ai commencé par un premier conseil pédagogique. En tant que chef d'établissement, j'étais aussi inquiète que les enseignants sur la faisabilité de cette réforme. Comment ça va se passer ? Il y a l'AP, l'accompagnement personnalisé à mettre en place, il y a les EPI à mettre en place, du coup la co-intervention, ça veut dire qu'il faut garder des heures. Or sur toutes les DGM, hein, les dotations globales de moyens, on les distribue toutes les années. Il nous reste pas de bas de laine, hein, vous savez bien, les heures sup, les heures postes. En tant que chef d'établissement, comment est-ce que ça va passer? Donc, premier conseil pédagogique, la faisabilité. On regarde le tableau de répartition des moyens de cette année. On envisage celui de l'an prochain. Comment on peut s'organiser? Donc, après ce conseil pédagogique, on était déjà plus rassurés les uns les autres. Ça va être possible. Deuxième conseil pédagogique. Je l'ai fait en novembre, où là, on s'est dit, bon, il faut qu'on se réunisse et puis qu'on réfléchisse aux thématiques, puisque les EPI vont s'inscrire dans des thématiques. Donc j'ai donné le choix aux enseignants. Comment vous voulez faire ? On part des projets existants et puis on définit des thématiques à partir de ces projets, on essaie de les intégrer, ou alors on part des thématiques et après... Ben, on voit comment on peut faire, quitte à faire évoluer les projets. Les enseignants m'ont dit, ben non, il vaut mieux choisir des thématiques, et après, on met les projets dedans, si on en a, et on verra bien. Bon, donc on a fait comme ça. Tout ça pour vous dire que, vraiment la posture, c'est de se dire que le conseil pédagogique, c'est un lieu d'échange entre pédagogues. Hein. Le chef d'établissement, il est là pour rallier l'adhésion, l'adhésion à la réforme, l'adhésion notamment à ces EPI, qu'il est censé être le premier pédagogue de l'établissement à impulser la politique et qu'à mon sens, on ne peut pas le faire en imposant. Voilà, on a de l'humain en face de nous, on l'a dit tout à l'heure, et il faut vraiment laisser la parole. Donc c'est ce que je me suis efforcée de faire. Ensuite, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, dans ces thématiques ? Partir à l'envie. Alors, il y a un enseignant qui a réagi de façon virulente dans le conseil pédagogique en me disant, c'est inadmissible, vous nous demandez de partir à l'envie alors qu'il y a une loi. C'est pas l'envie, c'est vous qui nous dites. Alors, je lui ai dit, ben non, parce que moi, quand j'étais enseignante, je fonctionnais à l'envie, donc je vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Par contre, ce qui est vrai... c'est que peut-être et sûrement, si on part à l'envi, tous les élèves par niveau ne suivront pas le même EPI. Puisque va y avoir monsieur Machin, madame Bidule qui vont vouloir travailler EPS lettres, et puis pas forcément dans la cinquième deux, peut-être, enfin dans la troisième quatre, oui, mais pas dans la troisième trois. Est-ce que ça pose souci ? On s'est posé la question aussi. Et je leur ai dit, moi, je m'en fiche complètement. Moi, ce que je regarde, ce sont les attendus de fin de cycle et la validation du nouveau socle. Il faut que les élèves arrivent à leur meilleur niveau de maîtrise de compétences possible. Donc, peu importe le moyen par lequel on y arrive, vous faites le pays que vous voulez. Et les parents ne seront pas fâchés ni vexés. C'est pas ça le problème. Alors, l'enseignant en face a encore réagi de façon virulente en me disant « Mais vous vous rendez compte, alors on va faire n'importe quoi. » Je lui ai dit « Ben non. » Alors, il me dit « Ben la visibilité, alors, comment on va faire ?» Alors, je lui ai dit « Ben, ça me pose pas de problème, parce que ce qu'on va faire, c'est, au lieu de se casser la tête, parce qu'on a tous la grippe à un moment, on se casse une jambe, enfin on est absent. Sur les progressions pédagogiques, c'est très difficile de prévoir les EPI. Tel jour, je vais faire cet EPI-là. Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse fonctionner comme ça. Donc je leur ai dit, on fera un calendrier des réalisations que je présenterai en conseil d'administration. Je leur dirai, voilà, premier trimestre, il y aura tel EPI à la fin du trimestre, ou en fonction des EPI présentés, semestre, on verra bien, il y aura telle réalisation. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que les EPI meurent, un peu comme les EDD. Hein. Il faut que ces réalisations, elles se matérialisent et qu'elles existent, et qu'elles ne soient pas forcément des dossiers, etc. aussi, surtout. Vous parliez de Télérama, c'est vrai, il y a eu quelques articles pas terribles, mais... Ah, je ne l'ai pas vu, il est dans ma boîte aux lettres. Ah oui, encore. Mais j'avais lu un article qui était plutôt pas mal en début d'année scolaire sur un EPI espagnol EPS sur la danse, sur le flamenco, qui était plutôt intéressant. Voilà, donc je leur ai dit, on peut faire mais des tas de choses. Donc allons-y et surtout, gardons-nous la liberté de faire. Et l'an prochain, on verra bien si on sera bon. On sera forcément pas bon, mais... De toute façon, on ne sera pas non plus mauvais parce qu'on sera dans les clous. On aura fait des EPI, on aura fait des choses. Bon. On s'est dit, après ce conseil où on a fixé nos thématiques, je leur ai dit, et je parlais de ma zone d'inconfort hier quand on est chef d'établissement, je leur ai dit, ben voilà, il faut quand même qu'on regarde les besoins des élèves pour la paix. Hein, je suis désolée. Là, on a vu la faisabilité. On est d'accord. Bon, on est parti de façon consensuelle sur maths, lettres, histoire, géo, anglais. Bah, ouais, les disciplines qui sont à l'écrit au brevet, quoi. On n'est pas. Voilà. Il faut aussi appeler un chat. On a besoin de résultats. Hein. Mais regardons quand même les besoins. Et donc là, pour le chef d'établissement, c'est là que c'est difficile de travailler avec les équipes parce que il faut pas vexer. On a de l'humain en face de soi, on montre, vous avez tous vu dans la salle des profs affichée l'araignée avec les moyennes académiques départementales, bon, j'ai des collègues peut-être qui l'affichent pas, les résultats écrits par discipline, l'écart avec le niveau académique, ce qu'on peut attendre à l'écrit et puis ce qu'on a eu au final. Et là, on pointe, mais alors du doigt ce qui va pas, quoi. Hein. Bon, bah là, en lettres, je suis désolée, ça va pas. Donc il faut faire quelque chose. Mais évidemment que c'est pas les enseignants qui sont mauvais, c'est que on a des familles aussi qui ont pas un profil non plus. J'ai des familles sur les coteaux de la vallée du Gier qui envoient leurs enfants aux États-Unis, qui vont à New York, qui sont très loin de Béjart, etc. Et on le retrouve tout à fait dans les résultats en lettres. On avait fait une réunion d'équipe avec Monsieur Tulleux, l'IAIPR de lettres, et c'était flagrant. Comment leur parler du théâtre, comment à des enfants qui n'en ont jamais entendu parler. Voilà, c'est ça le questionnement qui ça doit porter là-dessus, la paix et les EPI. Hein. Il n'est pas question de dire aux profs qu'ils font du mauvais boulot. Pour autant, quand on est chef d'établissement, ça peut vite glisser sur un jugement, et il faut faire attention. Et surtout quand on est dans une année de réforme et qu'on a plein de choses à faire passer. Voilà. Sont arrivées les formations institutionnelles en trois phases, j'y reviendrai après, qui ont permis à tout le monde de se poser, de réfléchir. Ensuite, on est revenu. Nous allons revenir en mai, puisque sur la deuxième phase au collège, qui s'est passée dans les établissements, avec l'IAIPR référent, les enseignants ont travaillé leurs EPI, qu'ils avaient commencé à travailler dans la phase 1, en regroupement inter-établissement. Et là, je leur ai dit, bon ben, vous gardez votre travail, je vous envoie une trame informatique, on attend les formations disciplinaires, et puis vous me renvoyez tout. Et on affichera tous ces EPI en salle des profs et en mai, on se fait un conseil pédagogique pour bien tout définir, ce qu'on veut, évaluer, vous l'aurez évalué en termes horaires, et puis là, on se fera un calendrier, quoi, une progression pédagogique des EPI. Donc voilà comment on va pratiquer. Il y avait beaucoup de questionnements, puisqu'on est sur l'histoire des arts, sur les lettres. Les enseignants me disaient, bah oui, mais enfin, tout notre travail sur l'histoire des arts, ça va disparaître. Voilà, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Encore une fois, ça tombe à l'eau. Donc là aussi, encore tout le travail, ça a été de leur dire mais non, il y a un parcours artistique et culturel au collège. Les élèves pourront être évalués là-dessus au DNB hein, sur le parcours à venir et puis parcours citoyen aussi. Et puis il y a la thématique à culture et artistique, culturelle et artistique. Donc non, il ne s'agit pas à chaque fois de remettre le travail du tout. Il faut partir de l'existant pour toujours s'enrichir. Et ce que je dis souvent, puisqu'on est parti sur la question « qu'est-ce que moi j'apporte au sein à mes élèves et au sein du collectif ?» Moi, j'ouvre. Je suis enseignant, aujourd'hui plus que jamais, il faut que j'ouvre ma porte à mes collègues, aux parents d'élèves, il faut que j'explique ce que je fais pour avancer et que ça donne sens aux yeux des élèves et aux yeux des familles. Et là aussi, quand on est chef d'établissement, accompagner un projet, c'est pas qu'accompagner les enseignants, c'est aussi accompagner les familles qui se posent beaucoup de questions. J'ai reçu les fédérations de parents, les présidents, j'en ai deux, j'ai la FCPE et les happy, les amis des parents indépendants, qui m'ont demandé de leur expliquer la réforme parce qu'ils comprenaient rien. Ils étaient très inquiets et ils étaient très inquiets de la façon dont ça avait été accueilli sur l'établissement, comment je sentais la salle des profs, est-ce qu'ils allaient y aller. Vraiment, ils étaient fébriles. Donc, on parlait de la communauté éducative, il faut vraiment accompagner tout le monde. Quelque chose que je redirai peut-être après, mais ces EPI, il me semble qu'ils donnent du sens aux enseignements auprès des élèves, auprès des familles, mais aussi aux yeux des enseignants, en tout cas à mes yeux, à moi aussi, parce que on comprend ce vers quoi les enseignements veulent tendre. Ce qui n'est pas forcément évident quand tout est très cloisonné. Et on donne enfin vie au collège, et j'y reviens parce que ça, c'est une de mes interrogations en termes de chef, enfin qualité de chef d'établissement, c'est le climat scolaire. On veut apprendre à nos élèves la vie, finalement. On leur apprend à s'ouvrir, à s'épanouir, à danser, à chanter, à écouter de la musique, à apprécier la littérature et toutes sortes. On voudrait leur apprendre la vie et finalement, comme vous disiez, on leur désapprend. J'ai bien aimé votre intervention. On leur désapprend, on leur dit maintenant tu te tais, tu t'assois, tu écoutes. Et je pense que là, les EPI sont vraiment un vecteur d'animation pédagogique au sein de l'établissement que j'ai pas envie de louper, moi. Et j'y associe la vie scolaire. J'ai demandé à la conseillère d'éducation principale l'année dernière d'écrire un projet vie scolaire. Donc on a travaillé avec les profs, elle a commencé, mais il est loin d'être terminé. Et je pense effectivement, nous on a vécu ça avec les championnats de hand du NSS là, qui se sont passés la semaine dernière. Les élèves allaient au gymnase, au lieu d'aller en perm, ils encourageaient, c'était génial, c'était un temps fort. Et ça, j'y crois beaucoup. Peut-être qu'avec les EPI, on va enfin apprendre la vie. Le flamenco, bah oui, bah c'est ça l'Espagne aussi. C'est ça la culture espagnole, c'est les tapas, c'est pas que la flore et la coliflore qui m'ont profondément ennuyée, moi, quand j'étais élève. Enfin, voilà. Donc, à ce stade-là, vous dire que accompagner un projet pour qu'il soit consensuel, je crois que si le chef d'établissement se met pas au milieu de la troupe et interroge les enseignants, questionne les parents d'élèves, questionne sa posture aussi, il me semble qu'on n'y arrive pas. Voilà, c'est un message. Voilà. Alors après, en conseil pédagogique, sont apparus des freins. On m'a dit, oui, mais alors pour la constitution des équipes, vous allez faire comment? Parce que vous nous laissez libres. Mais c'est que c'est compliqué, parce que le prof de maths, il va peut-être être sur deux EPI à cheval. Alors il va falloir trouver des associations d'enseignants. Ça va être compliqué. Alors oui, ça c'est un frein pour nous et ça va être complexe. On va s'y attacher. Pour la visibilité des EPI, j'en ai parlé. On fera un calendrier de réalisation, on présentera les réalisations. Ce sera plus simple. que au rectorat là, ils ont réfléchi à des présentations d'emploi du temps avec des EPI colorés, etc. C'est très complexe et je pense que ça apporte pas grand-chose au Schmilblick. Il y a eu ce sentiment du renoncement disciplinaire. Et ça, ça a été très lourd, très fort. Je salue d'ailleurs l'équipe, c'est pas parce qu'elles sont là, hein, mais l'équipe enseignante à Aix-Braya, parce que pas tant dans le collège où je suis, où ils ont pris à bras le corps finalement, ils se sont dit allez ok on y va, AP, EPI, on va s'en sortir. Mais c'est vrai que dans les formations avec les enseignants d'inter-établissement, là, il y avait, mais vous vous rendez compte, moi, je perds du temps sur ma discipline. Alors, comment leur faire comprendre que non, ils en gagnent faire des groupes de besoins, enfin pouvoir s'adresser à des élèves en phase 2 qui n'ont rien compris aux racines carrées et leur expliquer quand on est sur Pythagore, c'est essentiel, quoi. Parce que sinon, ils n'arriveront jamais à résoudre le problème jusqu'à la fin et ils passeront au chapitre d'après. Et puis Pythagore, eh ben, tant pis pour lui, quoi. Donc voilà, ce renoncement disciplinaire, et là encore, eh ben, les corps d'inspection sont essentiels. Et ça a été un lourd travail. Difficulté à faire des devoirs communs. Ça a été l'une des premières réactions. Ben oui, mais alors, nos progressions, elles sont plus les mêmes. Donc vous nous demandez de faire des devoirs communs, d'évaluer ensemble, on pourra plus. Oui, c'est vrai. Peut-être, à voir, je sais pas, on verra bien vos progressions, peut-être qu'on pourra en faire en fin d'année plutôt qu'en cours d'année, c'est vrai. Et puis, les concertations, je vous posais la question. Alors, quand on se faisait rentrer dedans, assez peu finalement, mais sur les premiers jours de la phase 1 en inter-établissement, je faisais l'atelier accompagnement personnalisé, je me suis fait rentrer dedans par... des représentants syndicaux sur la concertation. Donc ma réponse, c'était ben, nouveau statut de l'enseignant, 247 heures de concertation annuelle due à votre chef d'établissement, puisque on en est là, alors soyons-en là et parlons-nous franchement. C'est ça aussi, accompagner un projet, c'est aussi parfois ben, fixer les limites. Après, tout en se disant qu'on travaille tous beaucoup, que si on en est là, c'est grave à se regarder 247 heures, que on sait très bien qu'on se limite pas à nos 18 heures d'intervention quand on est enseignant. C'est ça aussi à accompagner, c'est être, se dire finalement quand on fait un projet entre collègues, c'est pour ça que je vous ai posé la question, on se rend compte que la concertation elle est là, mais c'est pas non plus des heures et des heures et des heures. Il faut pas exagérer. Faisons, rentrons dans la réforme et puis on verra après. Et puis de toute façon, les journées ne font que 24 heures, donc on va s'auto-limiter. Hein, on est tous, on a des enfants, on a des contraintes horaires et les choses se feront. Et comme je leur ai dit, on ne sera pas très bon peut-être, mais on ne sera pas mauvais non plus. Et puis on a beaucoup réfléchi en réunion de bassin aussi avec les collègues chefs d'établissement. Accompagnés par les corps d'inspection sur la constitution des emplois du temps où on va laisser des heures blanches entre enseignants de l'équipe pour qu'ils puissent se concerter. Alors ça va être complexe, mais on va donc dans chaque division, les enseignants auront du temps libre. Et aussi pour les co-interventions, ça va permettre sur cette heure que tout le monde pourra prendre, de pas prendre les élèves sur d'autres heures. Voilà, donc il y a cette dimension-là aussi technique à voir. Après, donc, je vous parlais des formations institutionnelles. Sur les trois phases, ce que j'ai apprécié de Madame la rectrice, quand elle a réfléchi à ces trois phases, c'est qu'au final, elle répond à la question « Comment est-ce qu'on fait de l'interdisciplinaire ? Comment est-ce qu'on facilite l'interdisciplinaire ?» Si on regarde bien, sur l'Académie de Lyon, on a fait de l'inter-établissement avec AP, EPI, simplement. Et on a laissé les élèves, les enseignants, rentrer dans les EPI. On leur a dit, voilà, ben, allez-y maintenant, faites en atelier. Et ils s'y sont mis pleinement. On a eu des EPI Star Wars, des EPI Jeux Olympiques, des tas de choses. Et ça bouillonnait. Et les collègues, je les ai un peu enviés, qui étaient sur l'EPI, étaient très, très contents des résultats. Donc, elle a d'abord fait réfléchir pédagogie. On est des pédagogues, on y va, on est capable de travailler ensemble. Après, phase 2, on travaille dans l'établissement en deux fois. D'abord, uniquement les enseignants du collège, avec l'IAIPR référent, le chef d'établissement. On se réunit sur la paix, dans un premier temps, et puis après, sur les EPI. On reprend ce qui a été fait en formation, vous, qu'est-ce que vous voulez faire, et les profs, ils y vont. Deuxième temps de la phase 2, on invite les professeurs des écoles. J'y reviendrai sur le cycle 3. Il n'y a pas de pays sur le cycle 3, hein, il n'y a pas ça. Mais on en a beaucoup parlé hier. Et là, formidable levier de travail où les échanges sont très fructueux. Comment vous faites-vous dans le premier degré? Ah ouais, nous, on pourrait faire ça. Et il va falloir de toute façon qu'on prévoie nos progressions pédagogiques communes. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on décloisonne tout ça. Et puis, phase 3, on revient sur le disciplinaire. Et finalement, pour favoriser le travail interdisciplinaire, bah rien de tel que de sortir du disciplinaire pour mieux y revenir après. Et accompagner un projet pédagogique interdisciplinaire, moi, c'est ce que je retiens de ces phases de formation, c'est que voilà, il faut s'éloigner du disciplinaire et il ne faut pas rester sur la question « Ah ouais, je suis nulle, moi, en physique, comment je vais faire, moi, prof de PS ?» Enfin, par hasard, pour m'associer avec le ou la collègue. Partons d'abord de nos envies, de nos qualités de pédagogue, de notre fonction, et puis après, on revient sur qu'est-ce qu'on veut faire. Vous parliez d'Anafort, bah oui, c'est venu comme ça, mais au départ, il y a le projet. Voilà. Le cycle 3, donc j'ai dit, il n'y a pas de pays. J'ai retenu hier une expression, vos élèves sont bavards. Je ne sais plus si la dame qui a présenté hier était là. En tant que chef d'établissement, je passe avec mon adjointe, je suis passée l'année dernière dans toutes les classes de CM2 du secteur pour favoriser la liaison école-collège et faire comprendre aux élèves de CM que quand ils arrivent en sixième, ils sont dans la continuité. Et la question qu'on leur a posée, c'est à quoi ça sert l'école ? Alors, ils ont tous été capables de dire, ça sert à être un citoyen. Il y a même dans une école, ils nous ont dit un citoyen éclairé. Alors, génial, hein, quand même, chapeau les PE. Donc, on a discuté autour du règlement intérieur, on s'est rendu compte que quand ils arrivent au collège, ils sont très anxieux des observations que peuvent mettre les enseignants, des heures de colle, des conseils de discipline. Ils sont là-dessus, ils sont pas sur qu'est-ce que je vais apprendre, comment on va faire, etc. Donc, dialogue important. Je fais une diversion, mais c'est pour mieux y arriver après. Nous, on s'est rendu compte que sur le niveau 6e, on a des difficultés en termes de vie scolaire, de discipline. On a des élèves qui sont bavards, bougeons, ça va pas. Et j'essayais aussi de comprendre pourquoi ça n'allait pas en allant dans ces classes et en regardant. Et j'ai vu que dans toutes les classes de primaire, il y a un règlement intérieur élaboré avec les élèves. Il y a même dans des classes où ils s'auto-évaluent en fin de chaque journée. Et finalement, les élèves bougeons qu'on a bavards au collège, ce sont des élèves qui sont citoyens, qui savent prendre des initiatives, qui sont pas figés, mais à qui nous, en collège, on les met en randonnion et on leur dit « Maintenant, tu te tais, hein, vous êtes 26, 27 par classe. Et moi, enseignant, j'ai besoin que vous me laissiez la parole. » Et je pense qu'on apprendra beaucoup de ce cycle 3 avec les professeurs des écoles sur et j'espère qu'on va arriver à passer de vos élèves sont bavards à vos élèves en réalité ils savent s'exprimer. Voilà. Ça aussi, je pense que c'est le rôle du chef d'établissement d'essayer de décloisonner, toujours avec les corps d'inspection, la LIEN premier degré, hein, mais de décloisonner tous ces corps, premier degré, second degré, qui encore... Alors, ils sont très contents quand ils se rencontrent. Et je leur ai dit, échangez-vous vos mails. Et puis, les PLC, allez dans les cours, allez dans le premier degré, faites-le. Et puis, voyez comment ça marche, échangez. Ben, ça s'est pas fait, il n'y en a pas un qui l'a fait. Alors, parce que cette année, je pense que c'est compliqué. C'est l'année chargée. Voilà, il y a plein de choses à faire. Mais... il y a aussi des représentations. Quelqu'un, madame, vous parliez, voilà, on nous enferme dans un statut, vous devez être comme ça, vous faites comme ça, et c'est compliqué de changer la posture aussi des enseignants, d'accompagner à ça. Alors, pour vous vouliez parler, Samy, et ben voilà, conclusion. Donc, en conclusion, pour revenir à ma problématique, qui est celle, alors, comment accompagner un projet? Et finalement, la question que j'ai posée au départ, c'est comment évaluer, parce que je suis volontairement décontextualisée pour revenir après au centre, comment évaluer le niveau de maîtrise par l'élève de mon apport pédagogique et en rendre compte en m'intégrant dans le collectif par rapport à mes collègues. Finalement, le rôle du chef d'établissement, c'est d'arriver à écrire une culture de projet au sein des équipes, tout en suscitant l'adhésion, avec en face des freins qui sont plus ou moins forts, ça dépend des personnes, hein, qui viennent du statut, qui viennent de comment on a été éduqué aussi à être enseignant, parce qu'avant on était bons élèves. Enfin, c'est très complexe, moi je trouve, d'arriver à mettre en place une culture de projet. Mais je pense que c'est essentiel pour que les élèves arrivent à se situer, eux, à comprendre les attentes de l'enseignant, à ce que les familles comprennent les attentes de l'enseignant, parce qu'encore une fois, le chef d'établissement est très en lien avec les familles et on les sent inquiètes. Et puis elles ont besoin, pour accompagner leur enfant à la maison, de savoir... ce vers quoi vous voulez tendre. Et puis c'est très aidant aussi pour l'enseignant lui-même qui peut avoir un regard finalement, qu'est-ce que je veux, et puis qu'est-ce que mes collègues y veulent aussi. Et je crois que vraiment le nouveau socle commun, c'est ce qu'il attend aussi, puisque volontairement on rentre pas par les disciplines mais par les compétences, et chaque discipline peut apporter son lot dans chacune des 5 composantes de ce nouveau socle. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le chef d'établissement, les corps d'inspection sont dans l'accompagnement, comme ça, de la culture de projet. En tout cas, c'est comme ça que je lis la réforme. Voilà. Et c'est pas réfléchir à ma discipline, qu'est-ce qu'elle apporte, c'est qu'est-ce qu'elle apporte au sein des autres disciplines. C'est ouvrir sa porte, voilà, aux collègues. Et puis, un deuxième temps de conclusion. J'espère que j'ai bien repris le nom hier. Claude Richer Manchet. CH, qui disait dans un petit interview là de votre intervention, finalement, on est dans un projet de société. Et oui, complètement. Et je reviens à mon idée qu'il y a derrière les EPI, les temps forts en établissement, c'est faire vivre l'établissement, mais c'est donner vie aussi au projet de l'élève, lui expliquer que finalement, à l'école, il n'est pas là non plus que pour s'ennuyer, quoi. Il est là aussi pour comprendre que, ah bah ouais, tiens, c'est vrai, Béjart, c'est pas si chiant, et ça peut être bien. Et ça m'a fait penser qu'il y a un peu moins de 15 jours, la DAFOP m'a demandé d'intervenir auprès de futurs enseignants en master là d'espagnol, de faire 4 heures sur l'éthique et les valeurs du fonctionnaire. Et donc là, j'ai emprunté une diapo qu'utilisent les IAIPR d'EPS de l'Académie quand ils accueillent les professeurs stagiaires. Et je leur ai dit, le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, vous voyez, compétences communes à tous les personnels d'éducation en 1, on a placé faire partager les valeurs de la République. Et finalement, c'est bien là-dessus qu'on est, je pense, tous. Et c'est là-dessus aussi que ça fait sens, puisque l'éthique, bah, c'est l'ensemble des valeurs qui font que on agit hein, au sein de nos établissements. C'est bien ça. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que là, on se retrouve tous autour de nos valeurs et que c'est à partir de là aussi qu'on peut construire.